Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse Loisir, le club du vendredi qui vous propose des idées pour votre congé de fin de semaine. Et ce matin, les journalistes Éric Libiot, Julien Bisson et Christy Limpé-Lédouel vous conseilleront des fictions qui vous feront rire ou sourire en cette période anxiogène. Et pour vos chroniques du vendredi, eh bien ce sera un jeu de chaises musicales que je vous laisserai découvrir en ce 1er avril. Thibaut de Saint-Maurice, Maya Mazorette, Guillemette Odissino et Grégory Cohen, est-ce que vous êtes prêts à ce jeu de chaises musicales des chroniques?
Bah, on est prêts.
Vous allez bien, Ali?
Grégory, hein?
Alors moi, vous allez voir.
Voilà. Hein, restez avec nous.
Et moi, Ali, prière de me tutoyer.
Exactement, je te tutoie ce matin, Guillemette, exceptionnellement. Et vous n'hésitez pas à partager ce qui vous fait rire ou sourire en ce moment. Roman, BD, film, série télé, 01 45 24 7000, sans oublier l'appli France Inter. Bienvenue dans Grand Main Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien Vous Fasse.
Bonjour Julien Bisson.
Bonjour Ali.
Honorable rédacteur en chef du 1 Hebdo, disponible en kiosque et par abonnement. À la une cette semaine de l'Hebdo qui se déplie.
Comment négocier avec Poutine? Vous saurez tout en lisant et on l'envoie évidemment au Kremlin pour savoir si on a la bonne réponse.
Ça peut aider pour les négociations salariales, etc.
Oui, alors ça dépend de votre patron. Si votre patron est froid, très calculateur, un peu effrayant, ça peut vous aider, oui.
Bonjour Éric Libiot.
Bonjour Ali.
Chroniqueur à Lire, magazine littéraire, dans Grand Main Vous Fasse, et vous êtes l'auteur de On a les héros qu'on mérite, qui vient de paraître chez Stock, un essai très personnel.
Chez
c'est chez La Thèse, pardonnez-moi. Vous avez
mais
lu.
J'aime bien Stock aussi, hein.
C'était pour savoir si vous suiviez, en fait.
C'était pas. Je dormais pas encore.
Donc, c'est chez La Thèse, un essai personnel sur les personnages qui ont jalonné votre existence.
C'est exactement ça. Bravo. Je vois que vous l'avez lu, en tout cas, la quatrième.
La quatrième de couverture. Bonjour Christy Limpé-Lédouel.
Bonjour Ali.
Journaliste à Psychologie Magazine et co-autrice de la revue Grand Bien Vous Fasse. Hein, le prochain numéro consacré au sens de la vie sortira le mois prochain. Allez, on commence avec vous, Christy. Christy Limpé-Lédouel, pour nous faire rire ou sourire en ce 1er avril, vous avez choisi un roman graphique de l'américaine Ali Broche, publié aux Arènes, et c'est sous-titré « Situation fâcheuse, insatisfaction, chronique et toutes les autres choses qui me sont arrivées ».
Oui, eh bien oui, Ali Broche est une jeune personne, enfin je crois qu'elle est un peu moins jeune maintenant, parce que ça fait quand même presque 10 ans que le livre est sorti. Elle est très drôle. Alors, elle a tenu un blog pendant des années. Je ne sais pas si elle continue, parce que je suis allée voir, et apparemment, non, mais c'est mystérieux. Et son idée, c'est de parler, comme vous l'avez indiqué,
d'elle-même. Ça s'appelle Hyperbole, je crois que je n'ai pas donné le titre.
Hyperbole. Voilà, tout est dans le titre. Elle parle d'elle-même avec, comment dire, une espèce de dramatisation outrée, extrêmement drôle, et avec un dessin approximatif.
Très approximatif.
Très approximatif et qui est absolument formidable.
C'est fait exprès ?
Très expressif. C'est fait exprès. Si l'on va dans les pages où elle parle de son chien, qui est un personnage très important dans sa vie, on s'aperçoit que oui, c'est tout à fait fait exprès. Alors, avec son humour qui déglingue tout, son sujet, donc c'est elle-même, ses angoisses, son enfance, et elle se parle à elle-même. Elle est elle-même sa propre interlocutrice, et alors ça donne des choses tout à fait particulières. Par exemple, elle parle d'elle-même lorsqu'elle avait 4 ans, mais elle s'adresse à elle-même qui a 25 ans. Alors, quand elle avait 4 ans, elle a été enterrée dans un coin du jardin, un questionnaire adressé à ce qu'elle serait quand elle aurait 25 ans, et là, elle répond. Alors, ça donne des réponses extrêmement bizarres, très drôles. Elle parle beaucoup de son chien, je vous l'ai dit, et son chien est un chien un peu particulier comme elle-même. Moi, je pense qu'ils ont un cousinage. Je pense qu'ils sont assez proches familialement. Le chien semble être, il semble avoir un problème mental, un problème de compréhension générale. Alors, elle essaye. Ça, c'est une idée quand même assez formidable. Elle lui fait passer un test de QI à son chien. Alors, je savais pas que ça existait. Apparemment, ça existe. Évidemment, vous doutez bien que le chien rate lamentablement tout le test de QI. Et tout est comme ça. Il y a aussi un épisode sur un moment où, quand elle avait 4 ans, elle a dévoré absolument entièrement un énorme gâteau d'anniversaire avec toutes les conséquences qui suivent. Et puis, il il y a des pages très importantes sur la dépression qui l'a touchée quand elle avait une vingtaine d'années. Alors on se dit, ah bah dis donc, c'est pas très marrant ton truc. Et bien justement, elle arrive à rendre la dépression qui l'a absolument mise par terre extrêmement drôle. Elle raconte par exemple littéralement qu'elle n'était plus capable que de ramper. Donc elle se dessine rampant sur la moquette et tout est à l'avenant. C'est formidable. Voilà.
Et ça s'appelle Hyperbole.
Hyperbole. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne sait pas ce qu'elle devient à Libroche. La dernière publication que j'ai vue était en 2020 sur son blog. Mais depuis, alors donc, Ali Broche, si jamais tu nous entends de l'autre côté de l'Atlantique, donne-nous des nouvelles, on serait contents.
Hyperbole, le conseil de Chrissy Lappé-Lédouelle, et c'est publié aux Arènes. Alors Julien Bisson, vous nous conseillez la série de bandes dessinées Tout Gilles Jourdan, 6 tomes signés Maurice Tilleux, c'est ça
oui.
Souvent décrit comme le Michel Audiard de la BD franco-belge. Hein.
Oui, Gilles Jourdan, c'est l'un de ces grands héros de la BD franco-belge qui ont été un peu oubliés, qui sont un peu passés de côté parce que ils ont été, on a regardé en tête les Astérix, Tintin, Gaston Lagaffe, dont on va avoir une suite dont je redoute beaucoup de choses. Ben, Gilles Jourdan, ça fait partie de ces personnages qui ont été un peu oubliés, notamment parce qu'ils n'ont pas eu de suite. Mais c'est bien dommage. Je sais pas si c'est bien dommage, mais en tout cas, c'est bien dommage qu'on le lise beaucoup moins aujourd'hui parce que c'est vrai que c'est l'une des séries assez incroyables créées par Maurice Tilleux dans cet univers de la BD franco-belge très ligne claire de l'époque. Et c'est bien parce que c'est vraiment une bande dessinée qui est à la fois pour les jeunes, pour les adultes, qui vont pouvoir voir différents niveaux de lecture à travers ce personnage de détective privé, donc Gilles Jourdan. Je crois que Gilles, c'est pour Gilbert, mais j'en suis plus tout à fait sûr. Gilles Jourdan, donc Gilles à l'américaine, qui va ressembler un petit peu à ces héros de détective des films de l'époque, et puis qui est accompagné de Libellule qui est un ancien cambrioleur qui lui sert un peu de gros bras et qui a un sens de l'humour assez impayable, fait de calembours qu'on adore savourer. Et puis l'inspecteur Crouton, c'est l'espèce de flic un peu débonnaire et un peu ridicule qui
l'accompagne dans ses...
La vengeance de la quatrième de couverture.
Un peu plus maigrichon et avec un chapeau, mais oui, il y a un peu de ça. Et voilà. Et donc c'est une série qui nous plonge dans cette France des années 60, à travers des enquêtes qui sont sur des enquêtes du trafic de drogue, des meurtres, donc tout ça, tout ce qu'on pouvait évidemment donner aux enfants à l'époque. Et il y a là-dedans dans cette série des trésors d'humour, évidemment, des réparties, des jeux de mots, des blagues qui sont tout encore délicieuses aujourd'hui. Mais il y a aussi des véritables histoires qui sont prenantes, haletantes. Je crois qu'il y a un des albums les plus célèbres qui s'appelle La voiture immergée, qui se passe vers la presqu'île de Noirmoutier, dans mon souvenir, où la marée monte et on va retrouver une voiture qui a été prise par cette marée montante. Et on se demande ce qui a bien pu arriver aux habitants ceux qui étaient dans cette voiture. Voilà, c'est vraiment ce genre d'histoire aussi un peu haletante, très polar noir, mais vraiment dans cette ambiance de la BD franco-belge des années 60. C'est un petit délice.
Éric Libiot.
Oui, c'est vrai que c'est un mélange comme il y a eu d'ailleurs en littérature dans le polar français, à la fois un hommage aux séries noires qui sont sorties en France après la guerre, et puis comme disait Julien, à la ligne claire belge, c'est-à-dire des couleurs très éclatantes, en tout cas assez pastel, beaucoup de bleu, de rose, des couleurs primaires, et puis un beau garçon, hein, Gilles Jourdan, très drôle, c'est vrai, avec des personnages secondaires. Il y a des références au cinéma, enfin en tout cas à l'ambiance de cinéma. Et c'est vrai que c'est un héros qu'on connaît beaucoup moins, qui est moins caricatural au sens du dessin qu'un Franquin, par exemple, beaucoup plus réaliste, sans être hyper réaliste. Et c'est vraiment, ce sont des albums, en tout cas un héros à redécouvrir, ça c'est sûr.
Découvrez ou redécouvrez l'intégrale Gilles Jourdan de Maurice Tilleux, et c'est publié chez Dupuis. Éric Libiot, mon cher Riri, vous avez choisi une autre BD. Je sais pas, j'ai envie de vous appeler comme ça ce 1er avril.
Riri.
Les mémés.
Des années qu'on m'a pas appelé comme ça.
Les mémés.
Aussi pendant que vous y êtes.
Les mémés, Chronique oui. des âges farouches de Sylvain Frécon, c'est publié chez Fluide Glacial.
Voilà, alors il y a deux tomes, hein. C'est hashtag les mémés en fait.
Hashtag les mémés.
Hashtag les mémés parce que c'est effectivement deux vieilles dames qui discutent à le hashtag signifiant le monde moderne et que ce sont deux vieilles carnes, enfin trois vieilles carnes pardon, Huguette, Lucette et Paulette qui discutent et qui ont leur avis absolument sur tout et notamment sur le monde moderne. Alors effectivement, le premier tome c'est Chronique des âges farouches, hein. C'est un clin d'œil à Rahan pour les alors je sais que tous les garçons autour de cette table ont rêvé d'être un jour Rahan
c'est mon père qui disait Rahan.
C'est à cause du
temps. Il y a que Julien Bisson qui a réussi à être Rahan, je crois. Il y a des photos qui traînent. Alors là oui, ce sont donc de vieilles carnes sans filtre. Le deuxième tome s'appelle Mourir peut encore attendre. Alors c'est au vitriol, c'est d'une méchanceté, d'une drôlerie absolument formidable. Le dessin est évidemment un peu comme les vents, vous voyez le dessin un peu cartoon de ces trois vieilles. Alors le plus simple, alors c'est un gag par page, parfois en deux pages. Le plus simple est de vous en décrire deux ou trois. Alors il y en a un qui est pour Maya ou pour Guillemette aujourd'hui. Je ne sais pas. C'est Huguette et Lucette qui discutent sur un banc et Huguette qui demande et sinon vous, je veux dire sexuellement, vous êtes plutôt hétéro, lesbo, bi, pansexuel? Et Lucette de répondre, alors là vous me posez une sacrée colle, il aurait fallu demander à mon mari, c'est lui qui s'occupait de ces trucs là
c'est pas mal. Donc ça s'appelle hashtag les mémés.
Et un petit dernier quand même, ouais, ils sont les Huguette et toujours Lucette sont devant le bureau de vote, c'est très d'actualité. Et Huguette qui demande, vous avez voté pour qui? Et Lucette qui répond, je sais pas trop, j'ai oublié mes lunettes.
Hashtag
il y a beaucoup de gens dans ce cas-là, je pense.
Hashtag les mémés de Sylvain Frécon chez Fluide Glacial. Et vous pouvez retrouver toute la sélection sur l'appli France Inter. Allez, il est déjà 10h17, l'heure de retrouver non pas l'ami, mais l'amant du vendredi avec Maya Mazorette.
France Inter.
Chouette, tu es Harry Potter?
Grand bien vous fasse.
Je suis Hermione Granger et...
Évite de choisir tes amis parmi les gens douteux. Je peux te conseiller.
Alors, chère Maya, quel personnage de fiction mérite cette semaine toute notre amitié?
Cher Ali, chères auditrices, chers auditeurs, je voudrais commencer par une précision concernant celui que j'aime de tout mon cœur. Ce n'est donc pas effectivement un ami du vendredi qu'on va découvrir cette semaine, mais un amant du vendredi, ou du moins un amant de ce vendredi, car il est important de changer d'amant chaque semaine, sinon il s'use. Mon amant de cette semaine est irlandais. Il a 18 ans, ce qui rend notre aventure légale selon le code pénal, mais pas forcément selon le code des bonnes manières sexuelles. Code qui, pour rappel, induit que le partenaire le plus jeune doit avoir au moins 7 ans de plus que la moitié de l'âge du partenaire le plus âgé. Si vous n'avez rien compris à ce que je viens de dire, c'est normal, je vais vous donner un exemple. J'ai bientôt 44 ans, on divise par 2, 22 ans, on rajoute 7, ça fait 29. Normalement, je ne devrais pas coucher avec des hommes de moins de 29 ans. Est-ce que j'applique cette règle à ma propre vie? Non, absolument jamais. Mais pardon, je m'éloigne du sujet. Mon amant du vendredi a donc 18 ans. Il est très timide, il manque d'expérience, mais il a un avantage extraordinaire. Au lit, pendant les rapports sexuels, il parle.
If you want to stop or anything, we can obviously stop.
I doubt I'll want that.
Cette voix, c'est celle de Connell, le héros de la série irlandaise Normal People, et je traduis ce qu'on vient d'entendre. Si tu veux qu'on arrête, on peut évidemment arrêter. La série Normal People est sortie en l'an de grâce 2020, 3 ans donc après Me Too, et pourtant cette scène a ému la critique et le public parce qu'on n'est pas habitué, toujours pas aujourd'hui, à ce qu'un homme redemande le consentement à sa partenaire après qu'il se soit embrassé et dans le cas qui nous intéresse, après qu'il se soit déshabillé. Ça paraît pas grand-chose, c'est juste une toute petite phrase, mais elle est subversive parce qu'elle contredit un des codes implicites des rapports sexuels, celui qui voudrait qu'à un moment, il soit trop tard pour reculer. Quand on est une jeune femme, c'est quelque chose qu'on entend tout le temps. Si on entre dans la chambre d'un homme, si on l'embrasse, si on danse avec lui, si on met une jupe, alors il faut aller jusqu'au bout. Sauf que non, mille fois non. Dans Normal People, l'héroïne Marianne peut aller jusqu'au rapport sexuel, jusqu'à la porte du rapport sexuel, et arrêter quand elle veut. Son partenaire, Connell, ne demande pas de médaille, il trouve ça normal, c'est lui qui propose d'arrêter. Et bien sûr, il a raison, parce qu'un rapport sexuel pas vraiment désiré, ce serait nul. Si j'adore cette scène, c'est aussi parce que la série est destinée à un jeune public et on sait que la télé est très prescriptrice de normes sexuelles. Aujourd'hui, grâce à Normal People, il y a peut-être des ados qui abordent leur première fois avec une nouvelle grammaire des rapports sexuels à base de consentement. Mieux encore, avec Normal People, série chaude comme la braise, on a la réponse parfaite aux chouineurs qui disent que le consentement n'est pas sexy, ou alors que demander la permission, ça casse l'ambiance. Clairement, dans la série, l'ambiance n'est pas cassée, l'ambiance est transcendée, il y a de la confiance entre les acteurs et du coup, il y a de l'alchimie. Tout ça, c'est grâce à mon amant du vendredi, Connell, un héros avec des sentiments, un héros qui fait des erreurs mais qui sait demander pardon, un héros qui est fort et qui pleure comme une madeleine, un héros qui se libère des codes de la masculinité au fil des épisodes et qui n'en devient que meilleur, au lit. Par ailleurs, car on ne se refait pas, Connell avec ses yeux bleu néon est aussi une putain de bombe atomique, ce qui peut grandement aider pour le désir. C'est une beauté pas traditionnelle mais qu'on apprend à apprécier au fil du temps et c'est aussi pour ça que je le choisis comme amant. Il n'est ni parfait ni intimidant, on se laisse séduire au fil du temps. Connell est normal, ce qui est la moindre des choses vu le titre de la série. Il est normal et désirable. Connell me réconcilie avec tous les hommes et avec mes amants.
Normal People, c'est un roman à la base de Sally Rooney et c'était diffusé récemment sur France 5. La chronique, l'ami, l'amant du vendredi de Maya Mazorette cette semaine a podcasté sur l'appli France Inter. Guillemette.
Ah ben moi je buvais les paroles de Maya et puis ton amant, je le prendrais bien comme pote aussi hein, si tu me le prêtes un peu, mais
de toute façon, une semaine, il s'use.
Écoute, ok, on fait une garde partagée.
Allez, tout au long de la semaine, l'émission a été préparée par Alexia Rivière et Camille Poux-Jalagui avec l'aide d'Alice Galtier. La réalisation était signée Claire Destacan. La programmation musicale, Valentine Chedebois. À la technique cette semaine, Johanna Gabrich, Sybille Clamence et Jérémy Kaufmann. Dans un instant, d'autres surprises et des fictions qui vous feront rire ou sourire. En attendant, on écoute Élie Médéros. Toi, mon toi.
Oh. Toi, toi, mon toi, 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 mon tout, mon roi, toi, toi, mon toi, 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 mon tout, mon roi.
Des roses, toi ou toi.
Et maintenant, place, flattez-moi.
Grand bien vous fasse.
Monseigneur est le plus grand de tous les grands d'Espagne. C'est pas une flatterie, ça. C'est vrai.
Sur France Inter.
Vous pouvez pas me flatter un petit peu, là?
Monseigneur.
Vous êtes le plus grand animateur. Ça, c'est pas une flatterie, ça. C'est vrai.
Grand bien vous fasse loisir et des fictions humoristiques indispensables en ces temps anxiogènes. N'hésitez pas à partager ce qui vous fait rire ou sourire en ce moment. Romans, BD, films, séries télé. 01 45 24 7000. Sans oublier l'appli France Inter. Et c'est ce qui fait rire Eric Libio. Eh ben, c'est ça.
C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire, parce que c'est l'heure d'aller dormir.
Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Bonjour, comment j'étais fatigué après.
Ah non, je sais. C'est quand t'as dit prise d'otage. Prise d'otage?
Ouais.
Mon Dieu, mais une prise d'otage?
Oui, oui, c'est ça.
Mais Marie-Joëlle, elle est dans une prise d'otage, mais pourquoi tu m'as pas dit
oui,
ça?
Oui, je sais. Marie-Joëlle.
Eric Libio, vous ne vous lassez pas de la tour Montparnasse infernale hein, d'Éric Judor et Ramzi Bedia, sorti il y a une vingtaine d'années.
Oui, alors c'est le film culte familial par excellence qu'on voit à chaque fois à la maison. Alors je signale d'emblée que je ne sais pas du tout comment est-ce qu'on ne peut pas trouver ce film drôle, et je ne sais pas comment on peut trouver ce film pas drôle, et je ne parle plus à ces gens-là ni aux autres. Vous êtes prévenu, Ali, puisque vous n'avez pas ce film.
J'ai pas dit ça, pas du tout. Pas du tout. J'adore.
Alors effectivement, c'est Eric et Ramzi, c'est imaginé, écrit, joué, pensé par Eric et Ramzi. C'est réalisé quand même par Charles Némès en 2001. C'est à la fois une parodie de Piège de cristal de John McTiernan avec Bruce Willis, hommage à Bruce Willis.
Mais il est pas mort, hein.
Non, mais un hommage parce qu'il arrête sa carrière. On en a beaucoup parlé et que Piège de cristal, c'est quand même aussi un immense film. Eric et Ramzi, dont je suis effectivement grand fan, c'est le mariage de l'humour potache le plus potache et de l'humour absurde le plus absurde, j'allais dire. C'est à la fois très bas de gamme et très haut de gamme. C'est ça. Ils ont réussi quand même à trouver un style extrêmement subtil. Alors je le disais, oui, c'est un démarquage de Piège de cristal. Hein, c'est Eric et Ramzi. Sont le laveur de carreaux, ils lavent les carreaux de la tour Montparnasse, ce qui quand même nécessite pas mal de temps, et comme ils font plein de conneries, ils prennent un peu de retard, c'est la nuit, et puis ils assistent à la prise d'otage d'un conseil d'administration par une bande de commandants, qui est effectivement le début de Piège de cristal, et comme Eric est amoureux de Stéphanie, jouée par l'excellente Marina Foïs, il décide de la sauver, et là c'est parti pour une heure et demie de gag. Alors on a entendu effectivement se coucher à minuit, alors je vous signale que si je dis des blagues qui font pas rire, c'est normal parce que effectivement faut les voir à l'écran, parce que il y a effectivement le gag de la pizza quatre chaussures qui est quand même mourir de rire. C'est de toute beauté, qui est quand même. Et puis le célèbre t'es mignon, mais t'es un tout petit peu breton que Julien Bisson vient de répéter. Il y a aussi t'as les boules, t'as les glandes, t'as les crottes de nez qui pendent. Ça, et c'est l'humour potache.
Oui, bien sûr. Hein.
Je vois pas rire du tout.
Je souris.
Et le cours de force pure.
Et alors, tes bras sont tellement maigres qu'on dirait du Velux. J'aime beaucoup.
Oh non, mais il y a, je vais tirer une balle dans la tête à la main. Aussi.
Et Julien?
Non, moi je trouve que la blague la plus drôle du film, c'est une blague qui est sans dialogue. C'est le moment où il demande de prendre l'espèce de barre de fer très très chaude.
Oui, oui.
Et on le voit qu'il pleure, prend la barre de fer très chaude. On voit la main qui se brûle vraiment au cinquième degré sur la. Et la caméra remonte vers le visage d'Éric Judor.
Il a une larme qui coule.
Il a juste une petite larme qui coule le long de sa joue. C'est formidable.
Voilà. Alors c'est le grand film comique pour moi des années 2000. Alors il y a eu un 2 qui est un peu moins drôle, qui est un peu moins réussi quand même. Ils se sont heureusement ratés là, mais le premier, la tour Montparnasse infernale, qu'on peut trouver sur toutes les plateformes. Hein, j'ai vérifié, il y a aucun souci en VOD. Et le film le plus drôle du monde.
À regarder en famille. Il fait froid ce week-end. On en profite famille, pour regarder tout seul à deux. Voilà.
Au lit, sur le canapé, n'importe quand.
La tour Montparnasse infernale, le choix d'Éric Libio. Alors Christina Péléduel, vous avez choisi un petit bijou américain à lire en poche chez 10-18. Ah, c'est Mon chien stupide de John Fante.
Ah oui, c'est un bijou, c'est un chef-d'œuvre. Enfin, vous pouvez mettre tous les qualificatifs que vous voudrez. Mon chien stupide a été adapté à l'écran il y a peu de temps, un an ou deux. Et malheureusement, c'était pas une réussite, mais pour une raison indépendante du talent du réalisateur, qui est simplement que ce n'est pas adaptable, ce livre. Parce que tout tient évidemment à l'écriture. Et l'écriture de John Fante, elle est inimitable. Elle est unique, elle est magnifique. Alors John Fante, c'est un scénariste. C'était un scénariste parce qu'il est mort en 1983. Fils d'immigrés italiens, il a écrit toute une série de livres sur son père, la série des Bandini. Il était complètement dépressif. Alors vous allez me dire une fois de plus, c'est pas très marrant, mais il arrive à faire quelque chose de très drôle lui aussi avec sa dépression. Alcoolique, il en est mort d'ailleurs. Et vraiment hilarant. Alors stupide, c'est qui ? Stupide, c'est le nom de son chien. Ce n'est pas le qualificatif du chien, c'est le nom du chien. Stupide, il est trouvé... Alors Fante, je précise, parle toujours de lui, de sa famille, qu'il transpose, il leur donne d'autres noms, mais le fond de l'histoire, c'est toujours ça. Et donc la vie de Fante n'est pas forcément très drôle, mais il en fait quelque chose de vraiment très marrant. Alors stupide, donc c'est le prénom du chien qu'ils ont trouvé sur la pelouse devant leur maison, qui est dans un lotissement un peu chic en Californie, à côté de Hollywood, où Fante est censé travailler, mais il lui arrive souvent de ne pas travailler, même très souvent. Et donc, en arrivant, il voit Stupide, et Stupide ressemble à un ours. Il a l'impression que c'est un ours. Il est énorme, il est bagarreur, il est sale, il sent très mauvais, il a une tête monstrueuse, une tête d'ours justement, et pour arranger le tout, il est homosexuel. C'est un chien homosexuel. Alors il y a des pages absolument... Mais en fait, chaque page est une merveille. Mais des pages irrésistibles, en particulier quelques-unes, où Fante tente une explication psychanalytique du comportement bizarre du chien. Alors évidemment, derrière toi, alors il y a des scènes de bagarre, le chien se détruit, tous les chiens des environs, enfin ce chien est une catastrophe. Mais derrière tout ça, en dehors de la critique vraiment tordante du mode de vie américain, de la middle class dans les années 60, il y a quelque chose d'unique chez Fante, c'est la tendresse, la tristesse, la nostalgie de sa famille d'origine et le manque de reconnaissance de son talent, parce que toute sa vie, Fante a vraiment, on peut le dire, ramé en tant que scénariste, même s'il a été aussi très célèbre. Bref, c'est irrésistible et indispensable, voilà. Et je voudrais juste ajouter une chose. Le fils de John Fante, Dan Fante, a pris aussi le relais, a écrit des choses aussi magnifiques que le père, tout en tentant de l'égaler. Et il était également alcoolique. Donc il y a une espèce de malédiction de l'alcoolisme dans cette famille, mais qui est absolument transcendée par l'humour et par cette écriture sublime.
Grégory Cohen.
Alors c'est drôle parce que moi j'ai vu le film. Je l'ai adoré, j'avais pas lu le livre et c'est toujours un peu la même chose. Quand on lit un livre, notre imaginaire crée tout ce qui va être autour, crée ce visuel et donc parfois évidemment on est déçu. Moi je trouve que Yael Langman et Yvan Attal, ils ont fait un boulot exceptionnel. Je pleurais de rire dans le film, je me reconnaissais par moments, c'est le type qui passe la quarantaine, qui a la grosse crise, qui a ses enfants ou la cinquantaine, les enfants ados, la quarantaine c'est pour me rajeunir à chaque fois. Merci Priscilla. Enfin bref, voilà, j'ai trouvé ça topissime aussi.
Mon chien stupide de John Fante, à lire en poche chez 10-18. Alors Julien Bisson, vous avez choisi une autre BD, Un général des généraux de Nicolas Juncker et François Bouc. C'est publié aux éditions Le Lombard. On peut donc rire du putsch d'Alger en 1958.
Ouais, je pourrais vous dire que c'est l'histoire d'un putsch d'extrême droite qui essaie de renverser la République et vous me direz que c'est pas très drôle, surtout par les temps qui courent. Non, sauf que c'est traité en effet avec grande dérision par les auteurs qui arrivent à nous faire rire, mais alors franchement rire, d'un des épisodes qui aurait pu être parmi les plus terribles de l'histoire de France, la crise d'Alger de 1958, si on se rappelle, un carteron de généraux, comme on dit, essaie de prendre le pouvoir en Algérie. C'est la fin de la 4ème République, soutenue par des colons bien décidés à ne pas abandonner le pays. Et l'album nous montre, c'est très 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 réaliste, c'est très très vraiment sur la vérité des faits, peut-être pas tout à fait des actions des personnages, mais le contexte historique est tout à fait réaliste. Et ça nous explique cette crise d'Alger en nous montrant... qu'en réalité, cette crise, c'est un foutoir improvisé où chacun des participants, qu'ils soient militaires ou politiques, va s'échaîner à toujours prendre la mauvaise décision au mauvais moment. Et même le général en question, c'est De Gaulle. De Gaulle qui attend à Colombey les deux églises que la République lui tombe dans la bouche comme un fruit bien mûr. Eh bien, lui-même, il n'est pas en reste dans l'espèce de côté un peu dérision qui traverse tout le livre. Alors, pas de jalousie, chacun en prend pour son grade, c'est la moindre des choses pour des généraux, même si certains en prennent un peu plus comme les que les autres. Il y a le notamment Massu qui va être véritablement l'une des têtes de turc de l'album tout au long des pages. Voilà, c'est un peu faut voir aussi les caricatures qui sont faites par Book, c'est un super dessinateur Book, et là véritablement ils s'en donnent à cœur joie pour caricaturer les trognes de ces personnages. C'est un peu les totons flingueurs dans la Casbah. C'est surtout l'acte de naissance de la Ve République et de notre régime présidentiel. Voilà, donc comme on est à une semaine des élections, c'est assez drôle de voir d'où cela vient. C'est traité ici avec un regard caustique sans jamais être irréaliste. Alors voilà, lisez-le. Mais on peut même dire au professeur, faites-le lire, parce que c'est souvent une page de l'histoire de France qui est passée très rapidement, que ce soit dans les écoles ou ailleurs. Ça permettra de comprendre cette page un peu noire, sans oublier d'en rire.
Un général, des généraux de Nicolas Juncker et François Bouc, Éric Fignon.
Oui, alors c'est certainement un des meilleurs albums parus ces derniers temps, c'est absolument formidable. C'est effectivement les coulisses, comme le dit Julien, mais moi j'aurais juste souligné le dessin extraordinaire de François Bouc, qui pour moi est en ce moment le meilleur. Il est vraiment à son apogée du dessin dans le crayon français aujourd'hui, qui est à la fois réaliste et caricatural, qui a un sens du mouvement et de l'instant absolument magique. Et c'est vrai que c'était un tel foutoir pendant cette histoire qu'il a arrive vraiment à croquer à la fois l'aspect assez dur et politique et sérieux de la chose et en même temps montrer uniquement grâce au dessin que c'était un bordel pas possible. C'est un album absolument formidable, une drôlerie, et en plus on apprend plein de choses que sont les coulisses d'un moment historique. C'est vraiment, vraiment, il faut le lire, c'est vraiment formidable.
Souriez
vraiment.
Avec un général, des généraux, et c'est publié aux éditions Le Lombard. Anne nous écrit, pour sourire et rire, je recommande la série OVNI, drôle, intelligente, musique rafraîchissante, décor des années 70 impeccable et des comédiens et comédiennes absolument formidables. Et on écoute justement un extrait.
Si vous avez entendu parler d'un phénomène étrange ou vu quelque chose dans le ciel, c'est peut-être un ovni.
On a une demi-tonne de barbe à papa qui est là, on ne sait pas comment ni pourquoi.
De la barbe à papa dans une centrale nucléaire.
Les centrales nucléaires, c'est comme les merguez. Personne ne sait vraiment ce qu'il y a dedans.
Guillemette Dicino, comme notre auditrice Anne, vous adorez OVNI, actuellement disponible sur MyCanal, et c'est une série créée par Clémence Dargent et Martin Douer.
Ah oui, j'adore, merci Anne, merci de me permettre d'enchaîner. Ah oui, parce qu'il y avait déjà eu l'effet de surprise donc de la saison 1. Donc je vous rappelle vite fait, hein, donc c'est l'histoire d'un professeur, Didier Mathur, il est physicien du Centre National des Études Spatiales sous Valéry Giscard d'Estaing. Hein, donc on est bien dans les années 70, là, il y a du pas de dev partout. Mais il se retrouve placardisé comme directeur du GEPAN. Alors le GEPAN, groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Et alors dans ce bureau, il n'y a que des pieds nickelés. Il y a des personnages que vous n'avez jamais vus dans aucune série, en tout cas française, dont ce personnage incroyable, donc qui pense que les centrales nucléaires c'est à peu près comme les merguez, qu'on ne sait jamais ce qu'il y a dedans. Et donc cette bande de pieds nickelés est censée en fait répondre aux demandes des Français qui croient voir des soucoupes volantes, tout en leur prouvant que, mais non, c'était le reflet de la Lune, c'était un couvercle de poubelle qui traînait, etc. Sauf qu'ils sont tellement timbrés, et qu'autour, l'histoire, en fait, commence à tisser un complot militaro-poétique, j'allais dire, que finalement, c'est à se demander, et d'ailleurs Didier Mathur lui-même, pourtant tellement rationnel, se demande si les extraterrestres n'existent pas vraiment. La première saison était déjà dingue, et alors la deuxième... Mais alors la deuxième, vous allez avoir... Moi, j'ai rarement eu un éclat de rire comme ça, spontané, devant ma télé. Par exemple, il y a une scène, enfin, entre autres, je peux pas vous donner le détail, mais on voyait une bande de chercheurs coiffés de serre-têtes, ou une bande de chercheurs en train de danser du disco et de chanter un tube de variétoche à la télé.
Maya essaye de s'imaginer la scène.
Non, mais vous pouvez pas savoir la fantaisie. Comment ?
Tu viens de m'envoyer sur la planète Saturne, je
pense. Ah mais écoute, vas-y, vous pouvez pas imaginer la fantaisie, l'humour, la créativité, le talent de mise en scène de cette série, c'est incroyable, vraiment. Je voudrais les embrasser, moi, les créateurs de la série, Clémence Dargent et Martin Douer. Sur la deuxième saison, ils ont été épaulés par Maxime Berthémy, hein, et alors le réalisateur Anthony Cordier. Non mais, c'est un objet télévisuel parfaitement identifié, pour le coup, pour son intelligence et sa fantaisie.
C'est à voir donc OVNI sur MyCanal. Alors vous êtes très corporate, Thibaut de Saint-Maurice, vous avez choisi une série France Inter diffusée sur Netflix, ça s'appelle Drôle et c'est créé par Fanny Herrero.
Oui, alors c'est pas la plus drôle des séries. En revanche,
merci de l'avoir choisi.
Vous me connaissez, c'est parce que en mettant un petit peu de distance avec ce que l'on regarde en réalité, enfin ce que la série nous conduit à regarder, c'est une série qui met en scène en fait quatre jeunes personnages qui aspirent à devenir des grandes stars du stand-up, qui font du stand-up. Donc en fait, le sujet, c'est bien comment faire rire, comment écrire l'humour et comment le jouer et comment en fait en faire aussi un métier. Et en fait, je trouve ça amusant parce que ça fait quelques mois, quelques années que le personnage de l'humoriste du stand-upper, qui est celui qui joue tout plein de personnages et qui joue sa vie comme un personnage, eh bien devient aussi personnage de fiction. Il y a sur OCS une autre série qui s'appelle Jeune et Gaulerie, qui est créée par Agnès Hurstel et qui reprend aussi ce personnage du stand-upper. Mais il y a un peu plus longtemps, il y avait cette Marvelous Mrs. Maisel, qui est une série américaine et on est dans les années 50. Et on
la
a
fabuleuse
aussi,
Madame Maisel.
Voilà, on a aussi ce personnage de stand-up, et je trouve que c'est intéressant de voir qu'il y a une sorte de genre ou de moment où le personnage qui fait rire, enfin le personnage qui fait rire ou le métier de faire rire devient en fait une sorte de référence. Alors pour revenir à Drôle, on s'attache très vite à ces quatre jeunes, à Issatou, Nézir, Bling et Apolline, qui ont des trajectoires évidemment très différentes et qui ont ce point de mire qui est commun et qui est de faire rire sur scène, d'être de plus en plus célèbre, mais peut-être aussi que la célébrité va être aussi de moins en moins drôle aussi à supporter dans les relations des uns avec les autres. Et évidemment, ça conduit en fait à réfléchir notre rapport à l'humour et en fait à la fonction sociale de l'humour. C'est-à-dire que, en fait, évidemment, ce qui se joue là, c'est notre capacité à être ensemble. Parce que l'humour, vous le savez, c'est très situé. C'est-à-dire que ce qui fait rire peut-être des Français, pas faire rire des Anglais ou pas faire rire des... Voilà, déjà, il y a une dimension nationale et puis il y a une dimension communautaire. Et puis et donc, et en plus sur le stand-up, le côté « je parle de moi et je fais rire », c'est à chaque fois, à chaque vanne, le souci d'être dans l'intime, l'individuel et l'universel, ou en tout cas ce qui permet une identification à une communauté. Et ça, je trouve que c'est vraiment passionnant.
Maya ?
J'ai dit tout à l'heure que les séries télé pouvaient prescrire des nouvelles normes sexuelles, et c'est vraiment le cas de la série Drôle, sur le plaisir prostatique et sur le fait de se caresser pendant la pénétration sexuelle. Là, il y a une génération qui va voir Drôle et qui va retrouver normal des pratiques qui, il y a encore 5 ans, étaient même admissibles.
On va regarder, Maya, donc cette série
mais
Drôle.
C'est important, elle.
Mais oui, je suis totalement d'accord avec vous, c'est diffusé sur Netflix. Je suis totalement d'accord avec vous, je partage totalement votre engouement pour Drôle. Chrissy Lapelle-Edouelle, un roman charmant, plein d'humour, du journaliste de Libération qu'on adore ici, Jackie Durand.
Ah oui.
Ça s'appelle « Plus on est de fous, plus on s'aime ». C'est publié chez Stock et ça sort le 6 avril prochain.
Et c'est délicieux, voilà. C'est, comment vous dire, c'est un mixte entre Trois hommes et un couffin et Les tontons flingueurs. Ah. Vous voyez le genre, le niveau, avec des répliques dignes des meilleurs films français des années 60. Alors, ça parle de quoi? Alors, vous l'avez dit, Jackie Durand, c'est un journaliste qu'on aime beaucoup, un journaliste culinaire et gastronomique, qui a une plume formidable, qui se retrouve dans ses livres. Alors, là, il s'agit de deux vieux déglingos, hein, l'un qui sort de prison. On apprendra au cours du roman ce qui s'est passé. Et l'autre, on ne sait pas trop bien. Donc l'un, c'est Roger, l'autre, c'est Joseph. Et le second, on ne sait pas trop bien. Mais en tout cas, il s'est retiré dans une maison forestière au fin fond d'une forêt en Bourgogne. Et tous les deux vivent ensemble. Voilà, déjà, c'est un couple un petit peu improbable. Un soir, donc, ils vivent de petites choses, et en particulier de cueillettes de champignons qu'ils vont vendre dans les restaurants. Et un soir, en allant faire une livraison sur une aire d'autoroute, ils s'arrêtent parce que au passage, ils boivent pas mal et ils mangent encore plus. Donc, ils se font des bons petits plats, etc. Donc, ils s'arrêtent pour pique-niquer. Et là, s'arrête une voiture qui dépose quelque chose sur le sol. Ils vont voir, il s'agit d'un bébé. Voilà, ils se retrouvent avec un bébé sur les bras. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont aller voir la police pour donner le bébé? Non, certainement pas, parce que ça va paraître très bizarre que l'un et l'autre se retrouvent avec un enfant. Ils décident de le garder et ils décident de l'élever. évidemment, ça va être un petit peu compliqué. Mais il y a des tas d'autres, il y a une quantité d'autres personnages qui naviguent autour, en particulier un psychiatre à la retraite qui s'appelle Karl Marx. Bon, on voit tout de suite où penche le cœur de Jackie Durand. Et vont s'en suivre des aventures impayables, des rebondissements. D'ailleurs, à la fin, le truc très drôle, c'est qu'on ne sait absolument pas qui a abandonné le bébé. On pourrait se dire, c'est une parodie de Polar. On ne sait pas qui a abandonné le bébé, ni pour quelle raison, mais en tout cas, il se retrouve père ou grand-père d'adoption. Et c'est vraiment, c'est charmant. Voilà, c'est très marrant. C'est une très bonne lecture de week-end, je trouve.
Plus on est de fous, plus on s'aime, de Jackie Durand, et c'est publié chez Stock. Et toute la sélection de fiction humoristique, eh bien, vous pouvez la retrouver évidemment sur l'appli France Inter. Tiens, il est 10h45. Il est l'heure de retrouver la chronique philo avec Grégory Cohen.
France Inter, grand bien vous fasse.
C'est pas un truc d'intello, la philosophie, c'est pas de la masturbation intellectuelle. Personne n'a à vous dire ce que vous devez penser, hein. Personne. Jamais.
Et ce matin, dans ce jeu de chaises musicales, mon cher Grégory Cohen, vous nous invitez à une philosophie de la cuisine. Dois-je m'inquiéter?
Ah. Alors, tout d'abord, je tenais à remercier mes très très bonnes camarades, hein, évidemment Maya et Guimette, qui m'ont refilé la patate chaude de la chronique de l'excellent Thibaut de Saint-Maurice. Alors, évidemment, aucune pression, hein, aucun challenge. On est sur France Inter, écouté par près d'un million et demi d'auditeurs. Alors, je sais pas si vous devez vous inquiéter, mais moi, en tout cas, je le suis. Et pour me rassurer, bah, j'ai essayé de mettre en place une méthodologie. Alors, tout d'abord, étudier la structure des papiers de Thibaut. Alors, il place souvent quelques citations, donc je me lance direct en vous prévenant, hein, comme le disait Amel Bent dans son morceau « Ma philosophie ». Viser la lune, ça ne me fait pas peur. Bim, voilà, j'attaque fort.
On est loin de Michel Foucault là. Hein.
Comment ?
On est loin de Michel Foucault.
Oui, d'ailleurs, je vois dans votre regard, Ali, une détresse abyssale. Vous aviez raison, effectivement, de vous inquiéter. Ensuite, vous allez chercher en réalité de quoi on parlait lorsqu'on parle de philosophie. Et quoi de mieux que le dictionnaire ? Alors, la définition, ou plutôt une des définitions, hein, évidemment, car c'est un peu comme quand je demande à mes enfants de m'expliquer qui a renversé son lait sur le tapis. Il y a toujours plusieurs explications et parfois contradictoires. Donc, une des définitions. Vous êtes prêts ?
Oui.
Ensemble de questions que l'être humain peut se poser sur lui-même et examen des réponses qu'il peut y apporter. Vision systémique et générale, mais non scientifique, du monde esthétique, éthique, logique, métaphysique, morale, ontologique, théologique.
Et du coup, on comprend mieux.
Voilà. Voilà. Donc je me lance. Comme une expérience philosophique donne donc à penser à questionner ce que l'on fait, quelle est sa place dans le monde et son rapport aux autres, je me suis interrogé sur la perspective du monde depuis la cuisine, lieu de création, d'anticipation, de partage et de transmission. Lorsqu'il cuisine, c'est-à-dire lorsqu'il est dans l'action de transformer la matière en la découpant, mélangeant, cuisant, assaisonnant, au-delà du côté nourricier, le cuisinier se met au service du plaisir des autres. Il va se placer au centre de la communauté en offrant ses mets à leur jugement, du plus petit au plus grand, à chacun différent, constitué d'envie, de souvenirs, de désirs multiples, mais réunis autour d'une même tablée. Il aura pour mission de les satisfaire en passant par leur jugement, auquel il se soumet à chaque repas, la récompense qu'il en retire et le plaisir qu'il offre. C'est en donnant ce plaisir que ce dernier en prend.
Et en ce sens, Grégory Cohen, cuisiner ou faire l'amour, c'est un peu la même chose. Hein.
Oui, Ali, c'est ça. Ça relève d'un acte d'amour, de partage, de transmission, de plaisir, de don de soi. Tu devrais essayer, Maya. Je suis certain que finalement, tu vas adorer cuisiner. C'est l'ingrédient secret.
Piquer ma chronique.
C'est l'ingrédient secret qui va transcender le plat et changer la perception, transformer l'invisible en émotion. Et pour y parvenir, la palette des capteurs est large, faisant la part belle à nos cinq sens primaires. Je touche ce morceau de pain. Je sens ce fumé, je goûte cette sauce, je vois la merveilleuse palette des couleurs du dressage, j'entends le crépitement de la cuisson et le craquement à la découpe. Ainsi, Aristote décrivait l'apprentissage des règles qui gouvernent les rapports physiques des éléments entre eux, la construction des lois universelles comme fondées sur nos sens. Rassemblés autour d'un plat élaboré par la somme des ingrédients qui le composent pour se révéler à un côté magique. Mais cette magie ne s'opère pas seule, elle est la somme d'une démarche qui consiste à travailler ces ingrédients dans un ordre. À la façon d'un musicien, le cuisinier va séquencer les saveurs. D'un peintre, il va mélanger les couleurs. D'un sculpteur, il va structurer la matière. Ce plaisir de créer est une expression innée, enfantine. Un mode d'expression accessible à tous et nécessaire. Et ce qui est top, c'est que quel que soit le mode de cuisson ou le style choisi, le cuisinier crée et transmet des émotions en passant par une esthétique des plats, des goûts, des odeurs et des couleurs, mais que la finalité est la même, cuisiner pour manger et manger pour cuisiner. Et de terminer par une citation d'Anton Ego, « Tout le monde ne peut pas devenir un grand artiste, mais un grand artiste peut surgir n'importe où. Et par la devise d'Auguste Gusteau, tout le monde peut cuisiner.
Et citation de
Ratatouille.
Bravo. Cohen, on croirait entendre du Thibaut de Saint-Maurice. Oh, Thibaut de Saint-Maurice.
Non, c'est mieux. C'est mieux.
La chronique philo de Grégory Cohen a podcasté sur l'appli France Inter. Après les nourritures intellectuelles, eh bien les nourritures terrestres avec Thibaut de Saint-Maurice.
Thibaut de Saint-Maurice,
vous êtes professeur de philosophie, mais vous adorez cuisiner également. Une recette à partager ce week-end. Vous célébrez ce matin l'art de la simplicité.
Exactement, je vous propose des tomates mozzarella.
Ah. Voilà. On va
sortir. Petite précision, c'est effectivement pas encore la saison des tomates, et donc cette recette n'est pas du tout une recette de saison, je sais. Et c'est pas une incitation à acheter et manger des tomates en ce moment, donc ne faites pas ça chez vous.
Ça commence mal.
Voilà, vous gardez cette recette dans un coin de votre tête et vous pouvez vous lancer d'ici 2 mois à peu près, hein, Grégory, c'est ça, fin mai, début juin, oui, par exemple, pour les tomates.
C'est beau, une recette théorique.
Alors pourquoi une recette tomate mozza? Eh bien parce que c'est très simple, c'est accessible à toutes et à tous, c'est inclusif, bon. Et que même cette fois, Maya va pouvoir faire ce plat.
Donc, m'accabler, enfin.
Pour 4 personnes, c'est assez facile. 6 belles tomates, 400 grammes de mozzarella bien crémeuse, de l'huile d'olive, du vinaigre balsamique et du sel pour l'assaisonnement, et puis pour ceux qui aiment, donc un peu de basilic. Voilà, donc vous découpez les tomates comme vous voulez. Vous découpez la mozza comme vous voulez.
C'est pas foulé. Hein.
Vous assaisonnez comme vous aimez et vous servez quand vous voulez, c'est prêt. Voilà.
C'est fini ?
Vous trouvez que c'est trop simple ? Vous en voulez plus ? Alors on recommence. Ouais. On recommence. On commence par les tomates. Pour bien les choisir, il faut comprendre ce qu'elles sont. Mais là, problème, c'est que savoir ce qu'elles sont, c'est pas évident. Est-ce que ce sont des fruits ou des légumes ? Biologiquement, ce sont des fruits. Mais dans la conversation ordinaire et sur les étals de nos maraîchers, elles sont considérées comme des légumes. Du coup, il faut remonter d'une question. Comment classe-t-on les choses du monde ? Comment fonctionne notre connaissance ? Et puis maintenant, la mozzarella. Question, à quel moment cesse-t-elle d'être crème pour devenir fromage ? Y a-t-il une différence de nature ou de degré ? Comment penser l'individuation de la crème de lait bufflone en mozzarella ? Je sens bien que je vous perds. Alors si vous voulez du plus simple, mais un peu du complexe, sans que ce soit compliqué, on recommence. Pour 4 personnes, 6 tomates, 400 grammes de mozzarella, vinaigre balsamique, huile d'olive, sel et basilic. Prévoyez aussi un peu de sucre. Et pourquoi pas aussi un peu de crème fleurette, parce qu'on va complexifier, mais promis, ça ne sera pas trop compliqué. Vous coupez les tomates, toujours comme vous voulez. Et là, au choix, je vous propose ou bien un caramel de vinaigre balsamique, ou bien une chantilly de mozza. Vous allez voir, ça le fait. Vous commencez par découper la mozza, toujours comme vous voulez, en boule, en carré, en triangle, en rectangle, et vous mettez les morceaux au congélateur. Une fois qu'ils sont bien glacés, vous faites un caramel de vinaigre balsamique, donc entre 20 et 30 centilitres de vinaigre balsamique à chauffer dans une casserole. Vous ajoutez 30 grammes de sucre et vous laissez caraméliser. Ensuite, avec une fourchette ou une petite pique de bois, et avec vos enfants, parce que c'est ludique, vous trempez les glaçons de mozza dans le caramel de vinaigre et vous les disposez ensuite sur les tomates. Voilà, ça va croustiller. Pour la chantilly de mozza, il y a une petite ruse. Vous prenez de la stracciatella, c'est l'intérieur, le cœur d'une burrata, et vous la montez en chantilly avec de la crème fleurette. Et vous pouvez même ciseler un peu de basilic pour l'incorporer à cette chantilly. Voilà, caramel de vinaigre balsamique ou chantilly de stracciatella. C'est un peu plus complexe, mais pas plus compliqué. On fait les deux ou juste un seul parmi les deux. On essaye, on risque, on rate, on prend du plaisir et on en donne. Comme le dit le philosophe Grégory Cohen, bref, on fait de la cuisine.
La recette de Thibaut de Saint-Maurice à retrouver sur la page de l'émission. Vous n'avez pas de compte Instagram?
Non. Si, mais c'est pas très intéressant.
Dans un instant, la chronique sexe de Guillemette Audicino. Ça promet. Avant ça, notez que lundi, en direct et en public, vous pourrez assister à la soirée hommage à Gisèle Halimi, avocate, militante féministe, femme de lettres et femme politique, de 20h à 22h en direct du studio 104. Vous pouvez réserver vos places sur le site maison de la radio et de la musique.fr. Une soirée présentée par notre camarade Sonia De Villers en partenariat avec l'association Choisir la cause des femmes. Allez, je vous propose d'écouter The Weeknd.
hiding something from me that's been close to yours. Now I felt it creeping up every day, baby, right from the start.
Écoutez The Weeknd, Maya.
Is there someone else?
Je suis tellement nul en anglais que je vous laisse un petit redit.
Exactement. Alors, c'était donc The Weeknd, Is there someone else?
Et bim, on s'y met tout de suite.
Oh, il est magnifique.
Tu peux pas obséder par le sexe.
Grand bien vous fasse.
C'est juste que je peux pas m'empêcher d'y penser.
Oh, tu m'entends.
Sur France Inter.
Et il est l'heure de retrouver la chronique sexe avec Guillemette Odissino cette semaine.
Oui, tout à fait, Ali. Et donc, tu seras gentil de me tutoyer pour une fois, d'autant que je vais essayer de parler avec la voix si douce de Maya. Comme le chante Alain Souchon dans « Sous les jupes des filles », elle, dans le suave, la faiblesse des hommes, elles savent. Et Maya, elle sait si bien. Moi, ce que je croyais savoir du sexe, je l'ai appris au départ en regardant des films. Des films réalisés en énorme majorité par des hommes. Des films où lorsqu'un type aime et désire sa partenaire, il la plaque contre un mur, contre une porte, contre un plan de travail. Dans un certain patrimoine du cinéma, le partenaire, c'est Monsieur Bricolage. Faire l'amour debout ou dans un escalier nécessite de plus des abdos en béton pour le garçon et un gros budget ostéopathie pour la fille. Le sexe sauvage en technicolore requiert aussi, en général, d'avoir fait un stage chez Houdini pour sortir de son jean moulant en 3 secondes chrono et une carte de réduction chez la mercière à force de faire sauter tous les boutons des chemisiers. L'inconfort de ces positions explique sans doute la rapidité de cet acte si fictionnel. Allez hop, tout le monde jouit en une minute et de manière synchronisée, bien sûr, avant de risquer une lombalgie. Mais le plus irréaliste dans tout ça, c'est le décor. Le coït mural, pourquoi pas? Mais dans la vraie vie, nous ne gambadons pas dans 200 mètres carrés meublés avec un chic minimaliste. Donc, dans nos petits appartements encombrés, on le trouve où? Le mur vide est disponible. Dans la cuisine, il faudrait déplacer le frigo. Dans la salle de bain, prière de dévisser auparavant le porte-serviette. Et dans l'entrée, même pas en rêve, entre le porte-manteau, le meuble à chaussures et le carton qu'on s'est promis il y a 2 semaines de descendre à la cave, on passe à peine un sein. Et pour l'option escalier, évidemment, il est recommandé d'être propriétaire d'une maison, sous peine de croiser votre voisin de palier qui descend les poubelles. Ah oui, j'y pense. Propriétaire de villa avec piscine, soyez vigilant. Le cinéma, là encore, vous ment. Avec ses couples batifolants dans le chlore, comme au JO de la natation synchronisée. Alors, en vrai, copuler dans l'eau revient à boire la tasse ou à perdre sa lentille.
Et côté mobilier, Guillemette, il y a des valeurs sûres?
Oui. Simple, solide, éternelle, la table de la cuisine ou du salon. Mais dans les films, de deux choses l'une. Ou alors elles sont virginales. Pas de peau de Nutella pas mal refermée, pas de crayon à coloriage, pas de porcelaine, ni de bougie parfumée. Ou alors, qu'à cela ne tienne, les partenaires emportés par le désir envoient tout valser. En réalité, alors on s'excuse, mais on tient à la soupière de mémé. Et fais gaffe, décale-toi un peu, là, pousse ton genou, tu vas faire tomber mon mug préféré. Le pire, c'est pendant le télétravail. Si votre mec vous saute dessus, impossible de faire taire cette petite voix intérieure si peu érotique. Merde, je n'aurais jamais dû laisser mon ordinateur portable sur la table, j'espère que j'ai gardé la garantie. Et après le saccage, il y a le lavage. Alors là, le cinéma change de décor, direction la salle de bain. Alors madame va se rafraîchir. pas monsieur, hein, parce que l'homme est auto-nettoyant au cinéma. Et la robinetterie aussi, d'ailleurs, dans beaucoup de films, le calcaire n'existe pas. Et franchement, ça, c'est encore meilleur que le sexe.
La chronique sexe de Guillemette Audicinois, podcastée sur l'appli France Inter. Merci à tous les chroniqueurs d'avoir joué le jeu ce matin. Lundi, dans Grand Mal vous fasse, j'attends toutes vos questions sur le cancer du poumon. N'hésitez pas à témoigner dès maintenant sur l'appli France Inter en laissant une note vocale. Merci à tous.